sommes sur Allégre FM 93.1. Dans La vie est un roman, nous sommes mardi matin. Et ce matin, nous allons parler pendant une heure des salons 1844-1849 de Théophile Gautier. Et pour ce faire, nous sommes avec la personne qui a relu, complété et assemblé cette édition du deuxième tome donc, des œuvres complètes critiques d'art de Théophile Gautier, Marie-Hélène Gérard. Bonjour.
Bonjour et merci de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis presque un quart de siècle, Gautier et ses salons. Alors, avant d'aborder ce tome 2 qui est encore tout frais, je voudrais dire quelques mots sur l'institution du salon. Le nom de salon est emprunté à l'italien salone, qui est une grande pièce, c'est l'augmentatif de sala, qui désigne à l'origine la pièce où on reçoit ses hôtes. Et c'est précisément le rôle qu'a joué en France dès le XVIIe siècle, le salon dit carré, c'est en fait un rectangle, qu'on a aménagé en 1661 entre la galerie d'Apollon et la grande galerie au Louvre. Après le départ de Louis XIV à Versailles, c'est l'Académie royale de peinture et de musique qui récupère l'usage de ce salon et c'est là que les académiciens se sont mis à exposer au public leurs nouvelles œuvres. Puis, quand les expositions des académiciens deviennent annuelles en 1737, le mot acquiert son nouveau sens, celui d'exposition périodique d'artistes vivants. Alors, il n'était pas tout à fait au bout de son évolution, puisqu'il allait aussi s'appliquer à la fin du XIXe siècle et par métonymie au compte rendu donné par les journalistes qui pratiquaient l'exercice et qui devinrent du même coup des salonniers et des salonnières, car il y avait aussi des femmes. Mais c'est seulement après la Révolution que ces expositions se sont étendues à tous les artistes, sous réserve qu'ils aient passé par les fourches caudines d'un jury plus ou moins sévère selon les époques. Pour ce qui est de la période 44-49, le jury sur lequel l'Académie gardait la main s'avère particulièrement sévère. D'autant que le salon est l'événement artistique de l'année, à quelques exceptions près pour les périodes d'épidémie, de modifications temporaires, de règlements. Et c'est la vitrine, pour ne pas dire la tribune, des artistes français. C'est une manifestation d'intérêt national, voire international, puisque des artistes étrangers se font de plus en plus nombreux à venir exposer à Paris. Pourquoi est-ce que le salon a autant d'importance? Si on remonte à la Révolution, qui a supprimé les corporations et les académies, on voit qu'elle a complètement déstructuré la vie et privé les artistes de leur commanditaire institutionnel, qui était l'Église, le roi, la cour, l'aristocratie. Et il faut attendre Napoléon pour que se reconstituent durablement les académies et la seconde moitié du siècle pour qu'un marché de l'art se mette définitivement en place. Le salon était donc devenu le lieu à peu près unique où un artiste pouvait rencontrer son public. Et des artistes, il y en avait de plus en plus. Le nombre des exposants du salon ne cessera d'augmenter tout au long du XIXe siècle. Il n'attire pas seulement un très grand nombre d'artistes, il compte à peu près 2000 œuvres en moyenne par année, dans les années qui nous occupent. Le nombre des visiteurs suit la même courbe. On s'y bouscule, alors on n'a pas de chiffres avant 55 et la mise en place d'un tourniquet, mais tous les témoignages concordent sur le fait qu'on s'y bousculait. Vous avez peut-être vu au Louvre le tableau de Biard où on voit la fermeture un jour de salon et tout le monde se bouscule. Alors, il faut savoir aussi que les conditions d'exposition y étaient très différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. D'abord par l'accrochage. On installait les œuvres à touche-touche, de la simèse au plafond. Il y avait de bonnes places et de mauvaises places. Il y avait au milieu des trois mois de salon, qui était généralement 15 mai, un remaniement pour faire droit aux plaintes des mal placés. Mais de toute façon, les œuvres d'un même artiste étaient rarement exposées les unes à côté des autres. Elles étaient plutôt dispersées au gré du préposé à l'accrochage, qui était un poste important dans l'administration des salons. Et surtout, ces œuvres, une fois accrochées, ne portaient qu'un numéro. Il n'y avait pas de cartel. Donc, pour identifier et les artistes et les titres, il fallait acheter à l'entrée de l'exposition un petit volume qu'on appelait le livret et qui était un répertoire alphabétique des artistes, chacun avec ses œuvres et avec ses numéros. Ces livrets sont très précieux. Vous pouvez les feuilleter maintenant sur le site de Gallica, puisqu'ils ont tous été numérisés, parce qu'ils donnent aussi l'adresse des artistes, le nom du maître auprès de qui ils se sont formés, les récompenses qu'ils ont obtenues, bref, tout ce qu'il faut pour admirer et surtout acheter en connaissance de cause. Car en dehors des commandes officielles, les œuvres exposées au salon étaient à vendre, et c'était pour les artistes, évidemment, un enjeu de taille. Ajouter à ça un système de récompenses, médailles ou décorations qui étaient distribuées à la fin de l'exposition. Et vous aurez une idée de la place qu'occupe cette manifestation. Le livret n'était évidemment pas le seul guide du visiteur parce que la presse, alors en plein essor, se mettait aussi de la partie. Les directeurs de journaux, de revues, s'assuraient tous un critique pour rendre compte du salon, à la fois aux visiteurs qu'ils contribuaient à guider et aux lecteurs éloignés qui voulaient se tenir au courant de l'actualité parisienne. Alors, c'était au risque de recruter des plumes plus ou moins averties des choses de l'art. Il arrivait que ce soit un job d'appoint pour des jeunes gens en quête de position, comme Thiers à son arrivée à Paris, qui écrit un salon de 1822 où il promet un bel avenir à Delacroix, ce qui a contribué aussi à son bel avenir à lui. Et c'est là que Théophile Gautier entre en scène. Alors, qui est-il ? Un jeune homme de bonne famille, né en 1811, bonnes études à Charlemagne, qui rêve de devenir peintre avant de découvrir en 1829 les Orientales de Hugo et de se laisser persuader par Victor, qui est son voisin Place des Vosges à Paris, de se consacrer plutôt à la poésie. Dont acte. Gautier publie son premier recueil sobrement intitulé « Poésie » à la fin de juillet 1830, très exactement le jour où se déclenche la Révolution. Non seulement ce mince volume passe complètement inaperçu, mais le père de Gautier, qui était receveur de l'octroi, parie sur le retour de Charles X et fait sombrer sa situation et la fortune de la famille. Gautier comprend alors qu'il devra trouver des moyens de gagner sa vie et il se rabat, comme beaucoup d'autres, sur le journalisme. S'efforce de placer des papiers dans de modestes feuilles. Mais il avait passé quelques mois dans l'atelier d'un disciple David, Eugène Rioux, assez peu connu aujourd'hui, juste deux tableaux au Louvre. C'était juste le temps de se frotter aux rapins et à leur argot. Il a lu en partie les salons de Diderot, qu'on avait commencé à publier dans les premières décennies du XIXe siècle, et s'en est assez pour qu'il se lance dans la critique d'art. Il chronique en 1832 l'exposition de la galerie Colbert. En 1833, il place à la France littéraire son premier salon, suivi en 34 d'un second dans la France industrielle du même entrepreneur de presse, Malo. Il aime l'art et il va se forger ses propres instruments critiques au fil de l'eau, tout en poursuivant son œuvre littéraire, ses portraits satiriques des jeunes France, sa résurrection des grotesques, une série de portraits d'écrivains oubliés du XVIIe siècle, ses poèmes de la comédie de la mort, et Mademoiselle de Maupin, toutes ses œuvres attirent la lumière sur lui, et c'est comme ça qu'en 1836, le fondateur du journal La Presse, Émile de Girardin, à la recherche de capacités, c'est-à-dire de journalistes jeunes et dynamiques pour son journal, et il invite Gautier à y tenir la chronique artistique, qui se doublera d'ailleurs très vite de la chronique dramatique, mais c'est une autre histoire. Le premier article de Gautier à La Presse est le compte-rendu des travaux de Lacroix à la Chambre des Pairs. Et il commence véritablement sa carrière de critique d'art à ce moment-là. Et La Presse va lui offrir une formidable tribune. L'exercice du salon restera d'ailleurs toujours dans sa production journalistique, dont il s'est quand même beaucoup plaint, ce qu'il commente le plus volontiers. Il faut savoir qu'il ne se contente pas de parler l'art, mais il construit une véritable sphère artistique autour de ces salons qu'il va passer en revue de 1933 jusqu'à 1872, année de sa mort. Il y en a 30 en tout qui sont un véritable monument de la critique du XIXe siècle. Alors, je vous renvoie au tome 1 des salons pour la période, je dirais, d'incubation où il se promène un peu de petite revue en petite revue. Et j'en viens à la période 44-48 qui marque, alors curieusement, un retour à La Presse. Après le salon de 40, Gautier avait pris un peu ses distances. Les relations avec Girardin, qui était un vrai patron de presse, enfin au sens de Hearst. Girardin n'était pas toujours facile et Gautier était allé voir ailleurs s'il pouvait publier son salon dans la Chronique de Paris en 1841, puis en 1842 dans le cabinet de l'amateur et de l'antiquaire que venait de fonder son ami Eugène Piot, le compagnon du voyage en Espagne. Pendant ce temps-là, Marie Dagout, alias Daniel Stern, avait fait du charme à Girardin et sauté sur le poste de critique d'art de Gautier, poste auquel elle s'accrocha furieusement jusqu'en 1943, si bien que Gautier a dû passer son tour cette année-là pour la revue de Salon. Il réintègre donc La Presse en 1944 au contentement général, avec un contrat un peu moins léonin que le précédent et une autorité bien assise parmi les critiques d'art. Il a 10 ans d'expérience des salons, sa parole est respectée, sa correspondance montre l'empressement que les artistes ont à solliciter ses conseils à la veille des salons, leur gratitude pour la moindre mention dans La Presse. Bref, cette période qui ouvre le tome 2 des salons est particulièrement intéressante, à la fois par la maturité qu'a acquise Gautier et par les enjeux artistiques du moment. Elle couvre donc les dernières années de la monarchie de Juillet et la Seconde République qui a eu un impact important sur le monde artistique. Ce sont les années qui voient le reflux du romantisme dans lequel Gautier était engagé, l'émergence du réalisme, le déclin de la peinture d'histoire au profit de la peinture de genre et du paysage, le démembrement de la discipline d'époque, des écoles au profit d'un individualisme de plus en plus assumé. Donc, la matière que Gautier traite dans ce volume est particulièrement riche. Alors, le premier salon, suite 44, n'est pas le plus flamboyant. Il commence par sa revue en constatant que, je cite, « l'aspect général du salon frappe par un certain air de sagesse, mais il offre tout de même à Gautier le plaisir, dans le tout premier feuilleton de 44 de confirmer l'ascension d'un artiste en qui il avait déjà deviné en 1839 l'espoir de la jeune école, Théodore Chassériau, auquel il réserve la préséance. Et il écrit, c'est dans ce tableau, il s'agit du Christ descendant du Jardin des Oliviers, et non ailleurs, que la question se débat. Quel débat ? Chassériau est un jeune élève prodige d'Ingres, et un artiste qui ouvre aux yeux de Gautier une nouvelle voie à la peinture en conciliant le dessin sévère d'Ingres avec une couleur qu'il rapproche de la croix. Et le salon est en effet, et c'est un autre élément de son importance, le lieu où se discutent et s'affrontent à travers les conversations virtuelles des critiques les tendances esthétiques à l'œuvre dans le champ parisien et français. Gautier, pour sa part, a opté en matière d'esthétique pour un mot d'ordre dont il ne dévira jamais, qui est l'art pour l'art. Je vous renvoie à la préface de Mademoiselle de Maupin pour en savoir plus, où il défend justement cette formule de l'art pour l'art. Qu'est-ce qu'elle signifie ? C'est l'art indépendant des idéologies, de l'utilitarisme, bref, le contraire de ce qu'on appelle l'art engagé. Et il s'est déclaré d'ailleurs, après la révolution de 1830, résolument apolitique et se targue en 1848 de ne pas laisser, je cite, « l'ouragan troubler la composition des mots écamés ». Mais à l'intérieur de ce cadre, il va s'efforcer de rendre compte aussi équitablement qu'il peut des multiples formes que prend l'expérience artistique en pratiquant une critique positive qui éreinte très rarement et qui se met à la fois au service des lecteurs et des artistes. Et donc, ce sont les points que je vais essayer de développer. Gautier s'est en effet donné pour mission d'initier un public bourgeois à l'art de son temps. C'est d'abord ce qui formate son discours. Ce sera un discours avec peu de termes techniques, plutôt des notions simples. Il tranche, par exemple, le débat entre la couleur et le dessin que beaucoup de critiques reprochaient à Delacroix encore dans les années 1840 de ne pas maîtriser. Gautier explique la distinction qu'il faut faire entre deux sortes de dessins, de dessins, celui des dessinateurs qui s'exprime par la ligne et celui des coloristes qui s'exprime par le volume. Je le cite, « Ceux qu'on nomme coloristes ont une tendance à tirer des objets à relief » et les dessinateurs, une silhouette. C'est une distinction que Baudelaire va relever et reprendre un an plus tard dans son propre salon. Et presque dans chaque chapitre, on trouve au début, à l'occasion d'un tableau, un point théorique plus ou moins développé sur une notion, une technique ou un genre, le portrait, le paysage. Toutes remarques qui, mises bout à bout, finissent par constituer une sorte de dictionnaire des arts à usage de Monsieur Tout-le-Monde. Car c'est bien là qu'est la cible de Gautier. Alors, le cœur de son dispositif critique, c'est évidemment la description. Une description souvent si précise qu'elle permet de retrouver certains tableaux perdus dans des réserves de musées. Ça m'est arrivé à l'occasion de d'autres volumes que j'ai eu à éditer. Il s'agit, dans la description, par un exercice de transposition, de donner à voir à ceux qui ne visiteront pas le salon, Il le dit explicitement à la fin des trois pages où il détaille par le menu les Romains de la décadence de Couture en 47, qui trône maintenant au musée d'Orsay. Mais la description s'adresse aussi bien aux visiteurs dont elle guide littéralement le regard. Voilà comment, par exemple, Gautier présente en 1847 un paysage de coraux. Vous n'apercevez d'abord que des zones de couleur grisâtre, péniblement empâtées, un chaos de tons lourds, étouffés, boueux, inappréciables. Reculez de quelques pas et vous assistez à un vrai changement à vue. Un ciel orageux et crépusculeux, rayé de nuages gris et séparé par une berge baignée d'ombre d'un fleuve dont les eaux pâles reflètent sa lividité, se déploie devant vous avec une puissance d'illusion incroyable. Une barque traverse ce miroir morne et déchire de son sillage la pellicule plombée qui le recouvre. Cette tache sombre est devenue un batelier qui se penche. Ses bavochages bruns sont maintenant des arbres dans le branchage desquels frissonne le souffle intermittent du soir. Il y a de l'espace, de l'air, de la profondeur dans ce tableau qui vous paraissait tout à l'heure brouillé de ton sale. Il y a là une sorte de mise en abîme de la description et de son pouvoir d'évocation qui est tout à fait significatif de la façon de procéder de Gautier. Alors, quelquefois, la description assume aussi une valeur corrective. Quand Gautier se trouve devant une œuvre qu'il ne juge pas à la hauteur des ambitions de son auteur. L'exemple le plus éloquent dans ce tome 2 est la prise de la Smala d'Abdelkader d'Horace Vernet. Alors, c'était une commande de Louis-Philippe pour la Galerie de l'Algérie au Musée historique de Versailles et ses 21 mètres de long sur 5 de large rencontraient au salon un énorme succès populaire. Gautier, donc, en prend acte dans la première partie de son feuilleton, avait en termes suffisamment ambigus pour laisser deviner qu'il a quelques réserves. Il parle de peinture de panorama, insiste sur l'admiration des foules. Et puis, il refait le tableau à sa manière. Alors, je vais vous lire le passage parce qu'il est vraiment très amusant. Certes, c'était un sujet splendide et magnifique pour un coloriste que la prise de la Smala. Nous ne voulons point dire que M. Horace Vernet l'ait manqué. Il l'a entendu à sa manière, qui en vaut bien une autre, mais qui est bien plus propre à rendre les physionomies et les uniformes des soldats de nos armées que les types fiers et les costumes pittoresques des Arabes d'Abdelkader. Nous aurions souhaité une de ces éblouissantes et farouches mêlées, comme Salvator Rosa, Rubens, Gros, Delacroix et Decamps savent si bien les rendre. Nous aurions voulu un ruissellement d'or et de pierreries, de velours miroitants, d'armes étranges et sauvages, de cavales échevelées, fumantes, les prunelles et les narines pleines de feu, se cabrant, se renversant avec leurs cavaliers, dans des groupes de femmes et d'enfants éperdus, des nègres nus combattant des ongles et des dents et mordant au poitrail les montures des vainqueurs dans le suprême effort de l'agonie et de la rage. Un fourmillement de corps, de toutes couleurs, de tout costume qui s'étreignent, s'enlacent, se déchirent. J'abrège. Vous voyez comment il refait le tableau pour montrer ce que Horace Vernet n'a pas pu faire. Et comme il ne s'interdit pas les digressions dans son salon, c'est un des grands charmes des salons de Gautier, il ajoute quelque chose d'assez étonnant. Nous sommes étonnés qu'un peintre ne se soit pas senti ému de plus de commisération pour ses belles figures, ses nobles draperies, ses armes richement ciselées, tout ce monde splendide et patriarcal à la fois, capitale errante de ce barbare aux sourcils noirs, aux yeux bleus, qui, assis sur un tapis de feutre et tenant l'orteil de son petit pied dans sa main délicate et blanche, déjoue depuis tant d'années l'habileté de la vieille civilisation européenne. De si beaux ennemis doivent être peints avec gravité et respect. Il n'y a rien de gai d'ailleurs dans cette irruption soudaine et violente d'un escadron de cavalerie au milieu d'un camp rempli de femmes, d'enfants et de vieillards. Ne les peignons pas faisant pour mourir des grimaces de Bobèche, ils défendent leur religion et leur patrie. Il n'y a pas beaucoup de critiques du Salon de 47 qui étaient capables d'écrire ce genre d'hommage à la civilisation de l'ennemi. La description est aussi un moyen d'éduquer la sensibilité du public. Elle doit communiquer au lecteur, à travers le choix des mots, le sentiment qu'éveille une œuvre et l'écho qu'elle peut trouver dans l'imaginaire du spectateur. Vous avez peut-être déjà lu le passage souvent cité et un peu agacé de Delacroix qui note dans son journal en 1855 que Gautier passe à côté des œuvres au lieu de les analyser d'un point de vue technique. Il fait son petit couplet à lui et ne parle pas suffisamment des problèmes techniques. C'est un moment d'humeur qui reflète mal la cordialité de leur relation, tout à fait perceptible dans les lettres qu'ils échangent, et Gautier a été un défenseur acharné de Delacroix. Mais ce reproche méconnaît surtout les vrais destinataires des descriptions qui sont à la fois les lecteurs éloignés de Paris et plus largement cette bourgeoisie née de la Révolution de 89 à qui il faut apprendre à apprécier les œuvres d'art. Et Gautier n'hésite pas à communiquer sa propre émotion devant le tableau ou la statue sans pédanterie dans cette même langue impeccable que Baudelaire admirait chez lui, si vous vous rappelez, la dédicace des Fleurs du Mal.
On va faire une petite pause musicale, si vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir la pause musicale? C'est d'usage à la moitié de l'émission.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mes colonnes sont alignées au portique du feuilleton. Elles supportent résignées du journal le pesant fronton. Jusqu'à lundi, je suis mon maître, au diable chef-d'œuvre morné. Pour 8 jours, je puis me permettre de vous fermer la porte au nez. Les ficelles des mélodrames n'ont plus le droit de se glisser parmi les fils soyeux des trames que mon caprice aime à tisser. Les ficelles des mélodrames n'ont plus le droit de se glisser parmi les fils soyeux des trames que mon caprice aime à tisser. Voix de l'âme et de la nature, j'écouterai vos purs sanglots, sans que les couplets de facture m'étourdissent de leurs grelots. Et portant dans mon verre à côte la santé du temps disparu, avec mes vieux rêves pour hôte, je boirai le vin de mon cru. Le vin de ma propre pensée, vierge de tout autre liqueur, et que par la vie écrasée, répand la grappe de mon cœur. Le vin de ma propre pensée, vierge de tout autre liqueur, et que par la vie écrasée, répand la grappe de mon cœur.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, ensuite
Alors, je reviens à l'exemple que je voudrais citer à propos de cette sorte d'empathie que Gautier met dans ses descriptions et ses appréciations des œuvres qu'il aime. Il s'agit là du jeune homme regardant des dessins de Meissonnier qui est dans un des salons du volume. Il n'y a là ni drame, ni composition, dans le sens vulgaire du mot. Mais ce brave garçon, vêtu de gris perle, se penche sur ce portefeuille avec une telle intensité d'attention. Il est si bien à son affaire, si séparé, si oublieux de toute chose humaine, qu'on voudrait feuilleter ses images avec lui. Quelle pénétrante intimité règne dans cet intérieur! Comme il est habitable et commode, qu'on serait à l'aise sur ces bons vieux meubles. Et puis quelle précision, quelle finesse de détail. Comment ce petit écorché de plâtre est éclairé et touché. Et les retours qu'on trouve dans la correspondance montrent que ces couplets de Gautier étaient évidemment très, très appréciés. De fait, Gautier va constater au fil des salons que le goût du public commence à s'affiner, que le bourgeois est devenu plus éclairé, plus exigeant. Et dans l'article que Baudelaire consacre à Gautier dans L'Artiste en 1859, il y a un chapitre sur la critique d'art, où il rend hommage à Gautier pour ce rôle d'éducateur de la jeunesse et de la société à la lumière de précisément ces salons. Mais Gautier ne se préoccupe pas seulement du public, il se préoccupe aussi et beaucoup des artistes, c'est ce qu'on attendait de lui. Et une autre particularité de sa critique, c'est l'ouverture d'esprit dont il sait faire preuve, y compris dans les œuvres qui contredisent ses propres choix esthétiques. Il se réclame personnellement du beau idéal, tel que l'ont défini les théoriciens et les artistes de la Renaissance italienne. La noblesse de l'art tient à ce qu'il corrige par le style les imperfections du monde réel, pour le résumer très brièvement. C'est ce qui lui fait admirer régulièrement les statues de Pradier, les tableaux d'Hippolyte Flandrin ou ceux de Delacroix. Je ne cite pas Ingres, puisqu'il s'était exilé lui-même du salon en 1834. Mais Gautier, par exemple, salue en 1949 l'avènement du réalisme au salon avec l'après-dîner à Ornans de Courbet, et je vous cite le passage. La soirée à Ornans consiste en quatre ou cinq personnages de grandeur naturelle, à physionomie caractéristique, revêtus de bons amis de campagne qui, assis ou accoudés, boivent, fument et écoutent un homme de leur société qui joue du violon. Ce n'est ni très aristocratique, ni très fashionable. Mais cette manière de passer le temps vaut bien une autre, et nous pensons qu'il serait difficile d'en trouver une meilleure, surtout à Ornans. Cette peinture forte et vivace a le charme des choses simples et ne manque pas d'une certaine poésie, toute grossière qu'elle puisse paraître, aux belles dames qui aiment le genre troubadour et les crevés à l'espagnol. Alors, les choses se gâteront un peu, plus tard avec Courbet, mais Gautier a toujours reconnu Courbet comme un peintre véritablement doué, même si il a une politique de scandale systématique qui visiblement irrite beaucoup Gautier. Alors, le critère qui résume sans doute le mieux ses choix et sa hiérarchie dans les talents dont il a traité, c'est ce qu'il appelle la sincérité. Et il met derrière le mot l'effort qu'a mis l'artiste à se rapprocher de la beauté et d'elle seule, sans préoccupation extérieure. Les gens qu'il déteste, ce sont les charlatans, c'est-à-dire ceux qui calculent leur effet pour émouvoir le public, comme l'a fait dans les années 30 Delaroche, que les éreintements de Gautier dans les salons du premier volume avaient fini par décourager d'exposer. Donc, Gautier est servi dans ce rôle du critique par une mémoire absolument étonnante qui lui permet de véritables reconstructions de carrière de salon en salon. Il est capable de rappeler ce qu'avait présenté X ou Y. Et il suit ce qu'il appelle la santé pittoresque des artistes. C'est son rôle de critique d'être en quelque sorte le médecin chargé de garder en bonne santé les talents. Cette métaphore étiologique est fréquente dans ses colonnes et parce qu'il est convaincu qu'il est plus difficile qu'on ne pense, je le cite, sa remarque, de suivre sa ligne sans dévier, et c'est le propre des talents sains de s'améliorer en restant fidèles à leur nature. Ça, c'est quelque chose qui guide véritablement son commentaire. Par exemple, s'agissant du paysagiste Louis Cabat, qu'il regarde comme le fondateur de la jeune école paysagiste en plein essor en France. Cabat s'était imposé dans les années 1830 avec des paysages de banlieue qui avaient beaucoup plu à Gautier. Mais quand dans les années 40, il part pour l'Italie et qu'il s'essaie au style des paysages de Poussin, Gautier le met en garde contre une maladie pittoresque qui dénature son talent. Et il constatera dans le tome 2 que le retour du peintre lui a ramené sa santé pittoresque. Il est guéri de sa maladie. Il y a évidemment quelques cas désespérés, comme celui de Veria, auteur des plus beaux jours du romantisme, au plus beau jour du romantisme d'une spectaculaire naissance d'Henri IV, qui lui va sombrer dans le doute et finir par renoncer au salon. Gautier donc essaie constamment de mettre en évidence la voie dans laquelle chaque artiste exprime le mieux ce qu'il appelle son microcosme, notion qu'il a empruntée à Goethe dans la fabrication des instruments critiques, et qui désigne le monde intérieur, l'imaginaire singulier qui est en quelque sorte la marque de fabrique de chacun. C'est comme ça qu'il reproche par exemple à Louis Boulanger, romantique flamboyant des années 1830, de renoncer à ses audaces de coloriste. Il essaie de même de mettre en garde contre les routines stylistiques, les exagérations, comme celle de Robert Fleury, par exemple, qui avait un grand succès avec des scènes d'inquisition. Sauf que ces scènes d'inquisition se font de plus en plus sombres, comme si Robert Fleury cuisait au four les couleurs de sa palette. Gautier est aussi à l'affût des jeunes talents, qu'il repère avec un œil très sûr, Jérôme en 47 avec ses jeunes Grecs faisant battre des coqs. C'était le premier salon de Jérôme et Gautier lui consacre tout de suite un chapitre entier. Au même salon, il remarque aussi François Millet, dont il saisit immédiatement le potentiel devant Œdipe détaché de l'arbre par le berger. Et je vous cite le texte, il est intéressant parce qu'on voit qu'il n'était pas très facile de soupçonner le talent de Millet sous ce qu'il présentait. Sous des dimensions restreintes, un sujet historique est grec. Cela est torché avec une audace et une furie incroyables à travers une pâte épaisse comme du mortier, sur une toile râpeuse et grenue, avec des brosses plus grosses que le pouce et recouvert d'effroyables ombres. Cependant, en se penchant à droite et à gauche, en avançant, en reculant, il faut remercier le jury d'avoir bien voulu laisser passer l'Œdipe détaché de l'arbre, cette toile à torchons barbouillée d'ocre et de noir par cette main violente, cette verve brutale en dit plus qu'une foule d'œuvres honnêtes, lissées, blairotées, poncées, limées, polies, vernies, devant lesquelles on peut refaire le nœud de sa cravate. Gautier a aussi à cœur de ne pas discriminer les œuvres des artistes de second rang, ceux qu'on appelle aujourd'hui les petits maîtres ou les oubliés, dont ces descriptions dans les salons permettent souvent d'exhumer des réserves des musées ou des greniers des œuvres qui ne sont pas dépourvues de mérite. Par ailleurs, il se fait, chaque fois qu'il le peut, le porte-voix des artistes. Et ça, c'est un rôle qu'il a tenu de manière très constante. Un des leitmotifs du tome 2, si vous ouvrez le volume, vous le verrez, c'est la lutte contre le jury, hostile au romantisme et hostile aux œuvres audacieuses, qui était capable de refuser des œuvres de Delacroix, par exemple, et puis qui a fermé la porte du salon à Théodore Rousseau, à Barry et à beaucoup d'autres. Et dans ces cas-là, Gautier se révèle un redoutable pamphlétaire. Voilà un jalon dans la lutte contre l'ostracisme dont est victime Delacroix au salon de 1846. Cela n'est-il pas manquer à la décence publique, insulter au bon sens général, donner un ridicule à la France? Comment vous refusez d'admettre un tableau de M. Eugène Delacroix? D'où sortez-vous? Passez-vous votre vie pour être si étranger à tout ce qui s'est fait depuis 20 ans? Vous ne respirez donc pas l'air qui remplit nos poumons? Quelque sorcier malfaisant vous a donc tenu prisonnier dans une bouteille de verre au fond de quelque laboratoire poudreux et rempli de toiles d'araignée? On ne peut expliquer autrement l'absurdité d'un semblable refus. Il obtiendra d'ailleurs gain de cause en 48, où le jury sera supprimé, et il s'en félicitera ouvertement. Il est à peu près le seul à le faire en 48. Les autres comprennent déjà qu'il faudra un peu de tri parce qu'ils se retrouvaient à la tête de 4000 œuvres avec le meilleur et le pire. Mais Gautier supplée souvent d'ailleurs au refus du jury qu'il juge scandaleux en décrivant l'œuvre qu'il a vue dans l'atelier de l'artiste. Il complète d'ailleurs avec la même liberté certains feuilletons par des excursions hors salon pour parler d'un décor monumental, par exemple le décor de Lehmann à l'Institut des Jeunes Aveugles, que ses lecteurs n'auront pas le privilège de voir. Il accompagne volontiers ses jugements de suggestions à l'adresse du gouvernement royal puis républicain, donner à tel artiste une chapelle à décorer, à tel autre sculpteur, de quoi transformer le plâtre du salon en statue pour en décorer un jardin ou un point de chasse. Il essaie aussi d'influer sur la politique des commandes publiques pour qu'elles bénéficient de préférence à de jeunes artistes. Je cite un de ces paragraphes. « C'est au sortir de l'atelier qu'un directeur des beaux-arts intelligent devrait embaucher les bons élèves pour quelques grandes décorations collectives, confiant un monument tout entier à l'école de chaque maître célèbre, les jeunes gens prendraient ainsi l'habitude du haut style et des grandes choses. » Gautier a toujours pensé que la meilleure formation pour la peinture sérieuse, pour la peinture de salon, c'était la fresque. Parce qu'on y acquiert un métier tout à fait remarquable. On le voit aussi en 1948, au moment où les artistes sont atteints de plein fouet par la crise économique, soutenir l'ambitieux programme de Chenavard pour le Panthéon, Chenavard qui avait proposé une manière d'atelier national artistique pour déployer à l'intérieur du Panthéon une vaste palingénésie sociale qui associait les mythes et les religions dans une vaste synthèse de la marche en avant de l'humanité. Alors, l'entreprise allait être stoppée net en décembre 51 après le coup d'État, mais c'est un épisode intéressant de la culture républicaine de 48 et Gautier a véritablement sponsorisé Chenavard dans cette affaire. Une autre préoccupation constante de ces salons, c'est la défense des sculpteurs. Il a compris que par ces temps de monarchie constitutionnelle, la sculpture est, je le cite, un art sans public et un art qui coûte cher à ceux qui le pratiquent. Ce qui lui fait dire en 48, la sculpture a ça d'agréable qu'elle fait tout de suite mourir nettement son homme de faim s'il n'est riche ou s'il n'a des commandes. Or, pour Gautier, la sculpture est l'art par excellence. Non seulement, et je le cite encore, ses œuvres ont une durée, pour ainsi dire, sans limite et atteignent l'éternité relative dont l'homme peut disposer, c'est donc un art qui survit parce qu'il est solide, mais, et je le cite encore, dans une civilisation avancée comme la nôtre, la statuaire a le mérite de conserver la tradition de la beauté, de maintenir les droits imprescriptibles du corps humain sur qui d'austères doctrines voudraient jeter à tout jamais leur suaire au pli droit. Elle continue ce poème de la forme à laquelle les Grecs ont taillé de si belles odes dans le Paros et le Pentélique. Elle est l'anneau qui rattache le monde ancien au monde moderne, car l'esprit du paganisme respire encore en elle. Et dans chaque salon, Gautier va réserver une place substantielle à la revue des sculptures. Parce qu'il s'interroge très sincèrement sur l'avenir de Pradier, de Préau, de Clésinger, de Barry, qui n'accède au salon que dans les années 50, et qu'il lance en quelque sorte l'alerte sur le futur de la sculpture. Il propose quelques solutions, et je trouve qu'elles sont assez prophétiques. Je le cite, « L'envahissement des idées chrétiennes et démocratiques amènera-t-il dans un temps donné la disparition de cet art monumental et princier qui exige des dépenses bientôt impossibles avec la division infinitésimale des fortunes ? Ou bien trouvera-t-on le moyen de réduire le marbre en pâte et de le couler dans des moules comme le plâtre, de façon à ce que tout le monde puisse avoir des statues et que la poésie légère de Pradier se tire à 20 000 exemplaires comme un journal ? Les maisons suces et barbédiennes qui vont commercialiser des statuettes dans toutes les tailles et les différents matériaux vont lui donner parfaitement raison sous le Second Empire. Et il poursuit un peu plus loin, il faudra pour vivre que le statuaire se rattache à l'architecture et se résigne à se mésallier avec l'ornementation. Les nymphes supporteront désormais des consoles, des cheminées, des entablements et des balcons. Sous peine d'être arrêtées comme prévenues de vagabondage, les statues seront forcées de faire le métier de cariatide et de justifier leur présence par un prétexte d'utilité bourgeoise. C'est précisément le plan qu'Haussmann va dérouler en 1852. C'est dire combien ces salons de Gautier sont en prise sur la vie artistique de son temps et combien son rôle a été celui d'un critique influent, pour reprendre le titre d'une lithographie de Daumier. Alors, je voudrais juste ajouter, pour finir, quelques remarques sur les raisons que nous avons d'éditer aujourd'hui ces salons. pourquoi les sortir de, du long sommeil dans lequel ils se sont endormis après la mort de Gautier? Bien précisément parce que ils sont restés, à quelques exceptions près, à l'état qu'on appelle pré-original et qui s'appelait dans la langue journalistique du XIXe siècle le rez-de-chaussée, la bande inférieure où prenait place le feuilleton qui subissait le sort habituel des journaux, c'est-à-dire allumer le feu. Mais une bonne étoile veillait et je voudrais en dire quelques mots pour lui rendre hommage.
Soyez succinct parce qu'on est à la fin de l'émission.
C'est le vicomte Spulberghe de Lovenjoul, un philanthrope et aristocrate bruxellois qui a collectionné les œuvres et les manuscrits des grands écrivains français et particulièrement de Gautier. Et Lovenjoul avait collectionné absolument tout ce que Gautier produisait depuis qu'il avait 15 ans. Et comme cet amateur était doublé d'un philanthrope, il a donné toute sa collection à la bibliothèque de l'Institut. Et c'est véritablement à lui qu'on doit d'avoir une matrice pour éditer ces salons de Gautier aujourd'hui. Ça fait partie des surprises que réserve souvent le 19e siècle, mais celle-là est particulièrement heureuse. Alors, je vais m'arrêter là.
Et donc, moi, je vais vous remercier pour ce cours magistral absolument formidable. Et rappelez qu'on vient de parler des salons de Théophile Gautier, 1844-1849. Qui ont été publiés chez Honoré et Champion. Et je suis sûr qu'on aurait pu faire une heure de plus.
Largement.
Et je voudrais remercier Didier Robert, qui était de l'autre côté de la vitre. Merci. Et donc, il reste 2 minutes. Vous voulez dire en 2 minutes, pourquoi est-ce qu'on connaît les salons de Baudelaire et pas ceux de Gautier?
Alors, la critique d'art de Gautier a beaucoup souffert de la grande ombre de Baudelaire. Baudelaire a eu la chance que sa critique d'art soit éditée tout de suite après sa mort, ce qui l'a consacré comme le grand critique d'art du XIXe siècle. Je parlais de Spulberghe de Lovenjoul. Il a passé de la mort de Gautier en 72 jusqu'à 1904 à peu près, le moment où il s'est retiré de ces activités-là, à solliciter des éditeurs en France pour prendre en charge une édition véritablement complète des œuvres de Gautier. La correspondance qu'il a entretenue avec ses éditeurs est conservée à la bibliothèque de l'Institut et c'est presque poignant de voir comment tous les éditeurs ont dit non, c'est pas le moment.
Merci et revenez quand vous voulez. Au revoir.
Eh bien, merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous suivre.